Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous partageons une lecture qui, personnellement, m'avait attiré parce que je connais bien l'autrice et je l'apprécie. Vous, Thierry, vous en êtes absolument fan depuis des années, je dois dire même des décennies. Mais l'ouvrage en tant que tel, bon, il est très beau comme ça. L'histoire ne m'apparaissait pas comme indispensable. Et puis en fait, en se plongeant dedans, une fois de plus, l'autrice, qui s'appelle Edith, pour moi fait un tour de force avec un récit qui, comme ça, ne paye pas de mine, mais en réalité dont elle sait fort bien se tirer. Ça s'appelle « Moi, Edine Björnsson ». Alors forcément, ça nous emmène vers le nord de l'Europe, rien qu'avec ce patronyme. C'est paru chez Noctambule, un éditeur qui, à chaque fois, produit de très beaux ouvrages, et c'est encore le cas.
Il suffit, pour rester dans les œuvres d'Edith, de citer Emma J. Wilford, une histoire d'amour, une aventure polaire en même temps. Dans ce livre, qui était façonné avec un soin admirable, il y avait une lettre déterminante dans la suite de l'histoire à un moment donné. Cette lettre, on la trouvait dans le livre. Il y avait des ajouts comme ça qui faisaient sens, qui en faisaient un objet précieux. Là, on va trouver un cadran à la fin du livre. Alors, les esprits chagrins diront que ce cadran, du fait de sa fabrication, a tendance à un petit peu abîmer le livre. En tout cas, à le rendre très instable quand vous le posez en pile dans une librairie.
Oui, ça c'est pour les libraires. Ça, ça,
c'est... Comme vous le dites, c'est un livre, on lit le résumé sur la couverture, les histoires d'un coureur de jupons au XVIIIe siècle en Suède et qui finit tué par un mari jaloux. Je vous ai raconté l'histoire dans ses grandes lignes, mais en fait, je vous ai rien dit, parce que ce qui compte, c'est la façon dont c'est raconté et le dénouement que je ne vous dévoilerai pas, évidemment. Surtout, c'est la manière dont Edith conduit le récit avec son dessin qui a un charme fou, son humour à froid, ses qualités d'autrice qui font qu'on est hypnotisé par ce qu'elle nous raconte et la façon dont elle nous le raconte.
Je vous soupçonne d'être un tout petit peu amoureux d'Edith quand même, Thierry.
Il y a 30 ans, je l'ai rencontrée pour une séance de dédicace à la librairie. Elle m'avait dédicacé 2 volumes de Basile Victoria. Je lui avais demandé un dessin précis. Elle l'avait fait, mais le personnage disait amicalement pour tirer, mais parce que je suis obligé. Bon, c'était une boutade, hein. Elle est revenue pour Emma J. Wilford et d'autres livres 27 ans plus tard. Et je lui ai dit, il y a 27 ans, vous m'avez dédicacé. Est-ce que vous pouvez me dédicacer, dans quelque sorte, une forme de suite dans la dédicace? Elle a repris le personnage en lui faisant dire, oh, qu'est-ce que j'étais mal dessiné à l'époque. C'est Edith.
Donc un certain humour.
Alors, beaucoup d'humour, une forte personnalité. C'est quelqu'un dont on admire le travail dans des genres très différents. Beaucoup de littérature pour la jeunesse, je pense au Jardin de minuit, l'adaptation du livre bien connu. Mais déjà des livres situés dans une période historique bien précise. Et c'est vrai que ce livre, il a été dicté. Alors, dans quelle mesure c'est vrai? Edith aurait rencontré un médium qui lui aurait appris qu'elle avait une vie antérieure. Et cette vie antérieure, c'est celle-là, celle du personnage qui est raconté dans l'histoire. Bon, peu importe, c'est vrai, c'est faux. Le cadran inclus dans le livre vous permet vous-même d'explorer vos vies antérieures, postérieures, que sais-je. Très vite, j'ai oublié ce dispositif.
Et je dirais heureusement, parce qu'en fait, il n'est pas question de ça dans le livre.
En détaillant les arguments tels que je viens de le faire, on pourrait se dire, comme je le pensais moi avant de lire le livre, ça va être une histoire fantastique. On fait tourner les tables. En fait, pas du tout, c'est une histoire hyper naturaliste d'un gamin qui naît dans un milieu ultra pauvre, dans des conditions dantesques, une vie de misère, une vie de souffrance. C'est du Zola.
Oui, c'est au XVIIIe siècle, en Suède, à un endroit où il ne doit pas faire très chaud. Hein, déjà, par chez nous, il ne fait pas forcément super chaud. Mais alors là-bas, il faut réussir à résister à tout ça.
Et le personnage principal, ce personnage dont je vous laisserai le soin de redonner le nom et de le bien le prononcer.
Je tente Edine Björnsson.
Il me fait penser à un autre personnage de la littérature scandinave, à Peer Gynt de Ibsen, ce personnage qui séduit toutes les femmes qu'il rencontre. Il est intelligent, il est beau, il a du bagou.
Et puis au début, il est jeune.
Et donc, en plus, il est jeune.
Voilà.
Comme Peer Gynt, il va aller de femme en femme, il va voyager, il va gaspiller ses talents, parce que Peer Gynt, c'est « qu'as-tu fait de tes dons ?» Peer Gynt, c'est très sérieux, hein, ça l'est beaucoup plus que ce qui nous est montré là. Et finalement, c'est un livre hyper féministe, parce que certes, le personnage principal, c'est un donjon. Que serait cette histoire sans les femmes? Les femmes qui sont d'une force incroyable, qui assurent le quotidien, qui sont pas dupes des intentions du personnage, qui sont un peu manipulatrices aussi. Dans ce monde d'hommes, ce monde âpre, violent, dur, miséreux, on peut compter sur elles pour faire avancer les choses, apporter la tendresse, l'amour, ou le pain quotidien au moins, et Dieu sait si le pain quotidien est difficile à trouver.
Ce que je trouve étonnant chez Edith, c'est qu'elle arrive à traiter des sujets avec l'air de ne pas y toucher. Je vais employer cette expression-là, pour aborder des choses très profondes. Donc il y a différents niveaux de lecture à son récit.
Ce qu'elle nous raconte, objectivement, c'est sinistre. Son dessin est tellement... a un charme fou, toutes ces bouilles rondes ou très allongées, avec ces yeux qui vous regardent d'une façon totalement éplorée. C'est à la fois pathétique et très drôle, sous des dehors légers. Alors, est-ce que c'est le fait de beaucoup travailler pour la littérature jeunesse ? Une hypothèse qui en vaut une autre. C'est un don pour Edith, comme vous dites, de parler, est-ce que je peux dire avec légèreté, avec, je garde ce terme de légèreté, garder avec une forme de légèreté, de parler de choses très profondes, très graves et très noires. C'est pas donné à tout le monde.
Les visages sont en particulier très expressifs.
Oui, oh là, ces regards, ces visages.
Et transparaît un certain humour à froid.
Oui, c'est clairement. Il y a un côté, les bras m'en tombent, mais on continue.
Voilà, on ne va pas raconter comment ça se termine, même surtout si c'est pas annoncé d'emblée.
J'ai annoncé l'histoire dans les grandes lignes, mais ce n'est rien de le dire, il faut lire l'histoire et surtout lire la fin.
Oui, parce qu'il y a quand même, allez, on vous l'avoue, un twist final auquel on ne s'attend absolument pas pour le coup. Et c'est fort bien mené, c'est tellement intelligent. Voilà le mot que je cherchais pour parler du travail d'Edith. Et ça n'a absolument rien de péjoratif. Elle donne l'impression de nous parler avec légèreté de sujets qui sont quand même relativement sensibles, de façon, au final, très intelligente.
Ben, c'est la différence entre l'intelligence et la prétention.
Oui, et là, nous ne citerons pas d'album sorti récemment. On en parlait en dehors de cette chronique. Il y a parfois des auteurs qui se prennent pour plus qu'ils ne sont, en effet. Ce n'est pas le cas avec Edith.
Certes pas. Edith, on t'aime.
Voilà, vous l'avez compris. Alors, on n'a pas trop parlé de la mise en couleur, mais elle aussi joue un rôle important parce qu'elle nous met véritablement dans l'ambiance de la Suède du 18e.
Oui, c'est d'une subtilité confondante. C'est à la fois plombé dans un camailleux de gris délavé. C'est toujours juste. Il y a un sens de l'atmosphère dans sa mise en couleur, dans son dessin et sa mise en couleur qui sont assez renversantes, qui peut s'éclairer suivant les contrées qu'il explore. Il voyage à arriver en France, d'ailleurs. Mmh. C'est un passage très drôle.
Oui, c'est drôle parce que le pêcheur en question, Edin Björnsson, il voyage à différents endroits où il comprend évidemment pas la langue. Enfin, il apprend, tant bien que mal. Et ça, c'est plein d'humour, en effet. On vous conseille à nouveau cette lecture d'Edith. Hein. Désolé d'insister aussi lourdement. Mais encore une fois, je le redis, et en général, c'est comme ça que ça se passe bien. C'est quand on n'attend pas forcément énormément d'un livre et qu'il nous surprend. C'est le cas avec celui-ci en ce qui nous concerne. Maintenant, avec tout ce que vous avez entendu de notre part, peut-être que quand vous allez le lire, vous allez vous dire « Oh ben non, finalement, c'était pas si bien que ça. » Bon. Vous verrez, faites le test hein, avec moi, Edin Björnsson, paru chez Noctambule. En tout cas, rien que l'ouvrage en tant que tel est un bel ouvrage et ça, c'est toujours très agréable d'avoir un tel livre entre les mains. Et donc, vous l'avez compris, l'autrice, c'est Edith. Ça vous donnera l'occasion de vous replonger dans l'ensemble de ce qu'elle a produit et qui mérite effectivement le détour. Merci beaucoup Thierry de nous avoir conduits à cette lecture. Et puis très certainement, il y en aura d'autres à partager pour les semaines à venir. Alors, à bientôt.